franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le Tour de France, les routiers de la plume et du micro. Demain, c'est le départ de la Grande Boucle en Vendée. Une semaine plus tard, les Puys d'Auvergne. Le 14 juillet, les Pyrénées. Le 18, les Alpes. La pente au Jarret plantera 1000 poignards. C'est une formule d'Antoine Blondin, incomparable correspondant des guerres courtoises du Tour. C'est qu'au moment où les coureurs s'apprêtent à s'élancer, il est juste de célébrer aussi les grands chroniqueurs, j'allais dire, les grands rhétoriqueurs du Tour, qui à l'heure du départ affûtaient leurs souvenirs des cours d'histoire géo et chauffaient leurs métaphores.
J'ai attendu pour voir enfin Robert Chapat, Antoine Blondin, pour voir de près les reporters, oui tous mes héros, les techniciens du sport vélo, à la télé, à la radio, tous ceux qui écrivent si bien dans tous vos journaux.
Hélas, aux Champs-Élysées, le 24 juillet, manqueront tous ceux déjà cités ici, et puis aussi Fallet, encore Nucera, et enfin leur copain Jean-Paul Brouchon. On se souvient, ici les studios, à vous la route du Tour, à vous Jean-Paul Brouchon, après avoir suivi 44 tours et œuvré pour Paris Inter, France Inter, France Info. Jean-Paul Brouchon s'est éteint il y a peu de semaines et cette émission lui sera dédiée. Notre invité, c'est Jean-Louis Hésine, bonjour.
Bonjour, Jean-Louis.
Qui a suivi aussi beaucoup de tours. Vous suiviez le Tour pour des journaux un peu pauvres, Jean-Louis Hésine, les Nouvelles Littéraires, le Quotidien de Paris.
Mais on pouvait le faire à l'époque qui était encore une époque où le Tour de France n'était pas l'organisation gigantesque qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc on se débrouillait, une firme d'automobile vous prêtait une voiture. Et quant à moi, j'étais logé, je suivais pour le Quotidien de Paris. Je ne sais pas si vous l'avez cité.
Alors j'ai même cité les Nouvelles Littéraires en sus.
Quelquefois même, on était si pauvres qu'il fallait que je dicte mon papier au téléphone avant l'arrivée de l'étape, ce qui obligeait à avoir des qualités de divination formidables. Et je me souviens, donc j'étais logé, non pas dans les hôtels qu'on pouvait pas sur lesquels on ne pouvait pas me réserver, mais j'étais logé par la direction du Tour, avec les coureurs cyclistes dans les équipes, donc au fur et à mesure des abandons. Vous savez, les coureurs cyclistes partagent les chambres, ils sont deux par chambre. Donc je peux dire avoir dormi avec Joaquim Agostinho, le grand champion portugais, qui avait toutes les qualités, il grimpait, il roulait, il sprintait, c'est une brute. Et je suis en mesure d'ajouter qu'il ronflait. C'est une, voilà, c'est un petit... Il savait tout faire. Quoi.
Mais vous aussi, d'ailleurs, Jean-Louis Hésine, écrire, parler à la radio, sculpter votre corps, parce que vous n'êtes pas seulement un contemplateur fervent de l'effort des cyclistes le jour et la nuit, vous pratiquez le cyclisme.
Ah ben oui, oui, je suis même, je suis toujours d'ailleurs licencié à la Fédération française de cyclisme. J'ai donc un numéro à l'UCI. Je participe à des cyclosportives. Oui, voilà. Mais en fait, c'est une activité où, vous savez, c'est un sport assis, donc c'est un sport de feignant, quelque part. Et pendant qu'on pédale, on peut faire autre chose. Je suis un petit peu à mon bureau quand je pédale, vous voyez, je suis assis, les pensées vous viennent. Le pédalage a l'intérêt de, comment dirais-je, le sang vous monte aux sphères méningées, ça fait venir les idées.
Donc le sport cyclique n'est pas un sport de bagnard, c'est ainsi qu'on va commencer en évoquant les premières forgeries des grandes images mythologiques en 1924 pour le Petit Parisien. Albert Londres, oui, qui rentre de reportage à Cayenne, s'élance sur les routes du Tour. Le téléfilm de Thierry Binisti imaginait d'ailleurs le dialogue qu'il avait pu avoir sur le sujet avec le directeur du bagne.
Je sens, monsieur Londres, que si j'étais journaliste, je crois que je m'intéresserais au sport. C'est un beau sujet.
J'ai justement en projet une série d'articles sur le Tour de France.
Ah, la petite reine. Isard, le galibier, ça fait rêver ici, on risque pas de pédaler, je vous assure. Donc, vous passez des forçats de la route aux forçats tout court?
Les premiers sont volontaires.
Ah, mais les nôtres aussi. Personne ne leur a demandé de tuer père et mère.
Alors ça, c'est, je ne connaissais pas, mais c'est monstrueusement fallacieux. D'ailleurs, j'ai jamais pu convaincre ni personne dans le vélo, il y a pourtant des historiens du cyclisme, et même, pas même mes amis de l'organisation du Tour, de les convaincre de la chose suivante. Albert Londres n'a jamais forgé cette métaphore des forçats de la route. Il rentrait effectivement de Cayenne. Il a publié dans le Petit Parisien ces fabuleux reportages qui ont d'ailleurs conduit à la fermeture du bagne. C'est donc un moment de civilisation extraordinaire qu'il est en train, grâce à son talent de journaliste, de faire basculer. Et vous pensez bien qu'il n'irait pas galvauder ses forçats dans une métaphore sportive. Donc, il n'y a jamais eu de préméditation de sa part. D'ailleurs, il y a une vérification toute simple à faire, c'est de se reporter à ses articles du Tour de France du Petit Parisien en 1924. Et vous ne trouverez jamais sous sa plume, à aucun moment pendant ces trois semaines, ni dans les titres même des articles, l'expression « forçat de la route ». En réalité, l'inventeur, si j'ose dire, c'est Henri Decoing. Henri Decoing était présent sur ce Tour de France. Il n'était pas encore le cinéaste qu'on a connu plus tard. Il était lui aussi journaliste sportif. Et tout le monde regardait Albert Londres. Il avait d'ailleurs fallu que le patron du Petit Parisien emploie vraiment les formes. C'est lui qui a voulu que Albert Londres suive le Tour. Et lui ne voulait pas, absolument pas. Puis tout d'un coup, il s'est dit qu'il pourrait peut-être voir sa maîtresse pendant trois semaines sans être embarrassé. Et finalement, il a accepté.
Mais il n'a fait qu'un seul tour. Donc la maîtresse, il avait rompu en 25
Après, je ne sais pas. Oui, après. Mais je pense qu'il a pris assez de poussière. Il a mangé assez de poussière pendant trois semaines pour lui passer l'envie de revenir. Donc Henri Decoing dit un jour... Alors Albert Londres, c'était quand même le grand bonhomme. Tout le monde le regardait sur le Tour en disant « c'est le grand porteur ». En plus, il se trouve que les frères Pélissier, à la troisième étape, abandonnent devant lui au Café de la Gare à Coutances. Et c'est le papier qui, effectivement, a fondé le mythe des forçats de la route, mais jamais il n'emploie cette expression. C'est Henri Decoing donc qui a dit des coureurs cyclistes de cette époque, de ce Tour, avec leur numéro dans le dos. Alors c'est vrai qu'ils avaient un dossard absolument monstrueux, ça montait jusqu'aux omoplates pratiquement. Avec leur numéro dans le dos, on dirait les forçats d'Albert Londres. Mais il parlait évidemment des forçats, les autres, les vrais, ceux de Cayenne.
Je reviens, puisque c'est notre thème, aux motivations des
chroniqueurs.
Vous m'aiderez,
n'est-ce pas, Jean Lebrun,
Jean-Louis Hésine, elle est portée au su et au vu de tous. Oui. Je reviens sur les motivations des chroniqueurs. Vous êtes un peu des irréguliers. Je ne dis pas que vous avez tous une irrégulière sur le Tour de France, mais...
C'est vrai que, c'est très commode le Tour, parce que pendant trois semaines, on sait où vous êtes et en même temps, on ne peut pas vous joindre. C'est vraiment une situation complètement idéale. C'est la situation rêvée par tous les journalistes, n'est-ce pas ? Donc, c'est absolument merveilleux. On est complètement nomade, transparent, on longe les choses, on n'est plus vraiment dans la société. C'est une sorte de vertige. Enfin, ça, on l'utilise à des fins... ceci ou cela.
Ça, c'est bon pour les routiers de la plume. Les routiers du micro sont davantage dépendants. Alors, interrompu pendant la guerre, le Tour avait déjà, dans les années 30, expérimenté des méthodes de transmission modernes. Quand oui. Il est réattribué à l'équipe de Jacques Godet et aux Parisiens libérés d'Amaury et de Félix Lévitan, la radiodiffusion national décide de mettre le paquet avec Georges Briquet qui est rentré il n'y a pas si longtemps de déportation.
Hier, à l'arrivée du Tour au Parc des Princes, vous avez pu entendre un radioreportage de Georges Briquet diffusé en direct sur les antennes de la radiodiffusion française. Reportage qui avait été réalisé à bord d'une Jeep par onde courte. Georges Briquet, vous êtes parti en Jeep de quel point ?
Eh bien, je suis parti en Jeep en réalité du sommet de la côte de Picardie. Alors la Jeep en question était surmontée d'une antenne gigantesque, une antenne qui montait bien jusqu'à à peu près 3 mètres de hauteur. Au volant, un lieutenant qui conduisait d'ailleurs.
C'était une Jeep de l'armée.
Une Jeep qui nous avait été prêtée aimablement par l'armée. Je m'installais à sa droite, c'est-à-dire derrière le pare-brise. J'avais à tenir le pare-brise d'une main et puis le micro de l'autre, car j'avais un micro en main. Et derrière moi se trouvait à leur gauche un de nos ingénieurs de la radiodiffusion française, du service de reportage, qui avait lui-même à sa gauche toute une série d'appareils récepteurs et émetteurs. Et alors, pourquoi y avait-il un poste récepteur et émetteur ? Pour cette bonne raison, c'est que je faisais le reportage alors que je parlais dans le micro, j'avais sur la tête un casque avec deux écouteurs qui me permettaient d'entendre ce que disait Jean Quittard, qui à ce moment-là était au Parc des Princes.
En tout cas, nous allons vous faire réécouter aujourd'hui, et pour la dernière fois cette année, le reportage réalisé par Georges Briquet hier, à bord d'une Jeep par onde courte, à l'arrivée du Tour de France. À vous, Georges Briquet.
Nous arrivons bientôt à l'entrée de la descente de Saint-Cloud. La descente que vous connaissez, descente enlacée. La foule est toujours aussi nombreuse, nos quatre hommes sont toujours en tête. C'est une caravane infernale de motos avec les quatre vélos et avec les voitures qui sont là, la foule qui crie. Les quatre hommes viennent d'aborder la descente.
Ah oui, oui, oui.
À vous, Jean-Louis Hésine.
Oui, alors là, on comprend l'émotion de Georges Briquet. Si je comprends bien, c'est la dernière étape du Tour de France 1947 qu'est en train de gagner
Biquet.
Il n'aura jamais porté le maillot jaune. Biquet, alias Jean Robic, qui n'avait pas encore été supplanté par Louison Bobet. Et ce qui lui avait d'ailleurs valu un jour, Robic s'est entendu dire, encouragé dans un col, « Vas-y, Bobet !» Et il racontait cette histoire lui-même en disant « Je me suis dit, quand j'ai entendu ça, Jeannot, ton étoile a pâli. » Ah oui. Et c'était des grands artistes de la plume et de la voix aussi. Donc là, il était en train de gagner...
Le premier tour d'après l'occupation.
Le premier tour, d'après en 47, et par une échappée qui s'était dessinée juste à Rouen, dans la côte de Bon Secours.
On peut arrivaient. Dire que vous êtes licencié au...
Ah mais justement, je suis licencié au VC Rouen,
oui,
qui est
d'accord.
La plus vieille société cycliste au monde,
oui,
1870.
Revenons au tour de 47, le premier tour d'après l'occupation. Alors... Le tour permet de refaire l'unité du pays, de
oui.
Rouen et de Marseille, de Tarascon et de Genève. Il n'en était pas.
Il y a deux idées de génie dans la création du tour. La première, c'est effectivement celle-là, mais elle est presque hasardeuse. C'est un mythe qui enchaîne formidablement avec la mémoire très vieille des Français sur les rituels d'appropriation du territoire par les monarques. Toutes ces entrées dans les villes que nous avons... qui en sont la trace, eh bien le Tour de France a repris en quelque sorte ce rituel d'unité, d'unification du pays. Donc à cette époque-là, les Tours de France épousaient étroitement les frontières, parfois même les traversaient, hein, comme les tours qui ont précédé la restitution de l'Alsace et de la Lorraine. Il y avait des autorisations données par les Allemands de passer à Metz, par exemple. Enfin bon.
Avant 14. Oui.
Avant 14.
Donc quand vient le solstice d'été, pour le chroniqueur, oui. Vient le temps de faire un peu de géographie.
Oui, ça me rappelle quelque chose, cette
phrase-là. Oui, je pense que c'est vous qui avez dit ça.
Oui, la géographie, oui, c'est quand même la grande passion. Et en même temps, la grande nullité française.
Hein, oui, par exemple, moi, j'ai cité Genève comme étant une des étapes naturelles dans les années d'après la libération. Non, c'est plus tard. Au temps de la dilatation du tour aux dimensions de l'Europe, que des villes comme Genève apparaissent. Et la télévision va suivre, 58, les premières émissions en direct du tour à la télévision. Et puis, les images de la France sont offertes en partage, non plus seulement aux habitants du pays, mais aux Européens, quand ça marche, parce que ça passe pas toujours comme une lettre à la hoste, dirait Antoine Blondin.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Eh bien, nous sommes au Val d'Aoste, donc en Italie, puisque aussi bien vous savez que le Tour de France passe par l'Italie cette année. Et depuis quelques minutes, si vous regardez vos récepteurs, eh bien, vous voyez des images, mais vous n'entendez pas de commentaires. Et je suppose, évidemment, que cela doit vous gêner un tantinet. Vous ne recevez pas de commentaires pour une raison qui est très simple et très compliquée à la fois, c'est que nous avons un incident technique. Un de ces incidents que l'on qualifie volontiers d'indépendant de notre volonté, ce qui est le cas, croyez-moi. En ce moment, nos amis Jean Guittard et Jacques Perrault sont en train de faire, avec l'aide de nos amis techniciens, tous leurs efforts pour réparer cette panne technique, en attendant l'arrivée de cette étape. Yvette Horner. Eh bien, voyons donc, le Tour de France n'est pas si loin, puisqu'Yvette Horner est là. Puisque l'égérie du Tour de France, Yvette Horner est en train, sur la piste d'Aoste, de jouer un air que la ligne, si elle n'était pas en panne, devrait nous traduire, devrait nous transmettre. Une piste vide, une piste déserte, une piste sur laquelle tout à l'heure... nous voyons là un monsieur. Est-ce qu'il est unijambiste ou est-ce qu'il tient un micro? Ah non, il tient un micro.
Bon, on ne le citera pas, on ne l'a pas retrouvé. Et le nom du commentateur, notre thème aujourd'hui, ce
sont
les grands
désolé, hein.
Rhétoriqueurs du ouais. Tour de France, Yvette Horner.
Yvette Horner, alors je parlais tout à l'heure de rituel d'appropriation du territoire, ce serait elle la souveraine. Elle a été la souveraine de ce qu'on appelle la caravane publicitaire. Elle était non seulement en situation de jeu, mais elle était exposée en majesté, c'est-à-dire qu'elle, vous savez, elle surplombait un car... Elle était là comme un empereur sous le dais. Et encore, il n'y avait même pas de dais.
Non.
Si bien qu'elle prenait des coups
de
soleil terribles.
Il y avait plus de moustiques que de dais.
Un jour, d'ailleurs, elle est arrivée. Elle était rouge, mais vraiment, c'était même dangereux. Et Jacques Godet l'a adressé au médecin du tour qui lui a ordonné une pommade pour lui permettre de résister à la chaleur cuisante. Vous savez, quand vous faites de l'accordéon toute la journée au soleil.
Et 12 kilos, l'accordéon.
Oui, c'est ça, 12 kilos, l'accordéon. c'est beaucoup plus difficile que de... Oui, parce que l'accordéon, il faut le porter en plus, tandis que le vélo, on est assis dessus. Et donc, ce qui lui avait valu de sourire au député maire le lendemain, elle s'était mis cette crème solaire sur le visage en abondance. Et elle ne s'était pas rendue compte qu'avec ça, elle avait attrapé tous les moucherons du parcours, ce qui lui a donné, ce qui a donné lieu à une scène assez cocasse à l'arrivée.
C'est difficile en plus de jouer de l'accordéon, Jean-Louis Hésine, parce que il faut faire concurrence aux sonos publicitaires et aux klaxons. Si on en vient à un grand chroniqueur que vous avez bien connu, Antoine Blondin, l'écrivain qui suivait régulièrement le tour, il disait que la foule était d'abord passionnée par la caravane publicitaire.
Bah oui, parce que en fait, les cyclistes, c'est vraiment quelque chose de très fugitif. À moins d'être en montagne, si vous êtes dans la plaine, c'est 3 secondes, quoi, hein, à peu près. Donc vous êtes là, vous attendez depuis des heures. Donc en fait, la seule partie, si j'ose dire, qui s'intéresse au public, c'est cette partie, c'est la caravane, effectivement. Le reste n'intéresse que les chroniqueurs, hein, on s'est bien d'accord. N'oublions pas, parce qu'on a entendu là, vous avez parlé des chroniqueurs, des gens de plume, et la télévision ensuite, le rôle de la télévision. La télévision a complètement perverti la chose essentielle qui est que le tour est une création des gens de plume. C'est vraiment une invention des gens de plume. D'abord, c'est pour fabriquer du récit, c'est pour fabriquer un récit à rebondissement qui va durer des semaines, et donc c'est pour vendre du papier. Voilà, la télévision a perturbé quand même
tout ça.
Oui,
mais reprenons le cas d'Antoine Blondin. 10, 12, 15 Tours de France, il voit arriver un jeune nigaud qui s'appelle Jean-Louis Hésine et il se dit, moi, ma fabrique à métaphores ne fonctionne plus, je suis fatigué, est-ce qu'il pourrait pas écrire mes chroniques à ma place.
Non, en fait, j'affirme hautement devant vous que je n'en ai écrit aucune d'Antoine, bien qu'en effet, mais je crois qu'il suppliait tout le monde. Hein, il essayait tout, y compris de boire les encriers pour se donner de l'inspiration. Donc, non. D'ailleurs, je dois dire, il est arrivé quelquefois que l'équipe, le journal pour lequel il écrivait, en réalité pour lequel il n'écrivait plus, republie une vieille chronique qui pouvait plus ou moins s'adapter à la situation du jour. Mais bon, voilà.
Les gens de plume craignent la répétition. Et puis alors, l'usage des métaphores démesurées.
Oui, ça c'est assez dangereux, cette situation-là.
Parce que, par exemple, chez Blondin, la Belgique Blondin, est joyeuse comme la danseuse est créole.
Oui.
Aravis, c'est sans fin.
Mais oui, c'est ça. Le problème des calembours, c'est que 3 ans après, on ne comprend plus le papier. Il y avait un chroniqueur qui était... Antoine a un talent, je veux dire, qui dépassait tout ça, bien sûr. Mais le chroniqueur, moi, que je trouvais vraiment génial, parce que lui ne faisait pas dans la métaphore splendide et encore moins médiocre, c'était Jacques Perret. Jacques Perret, l'auteur du Caporal épinglé, a été un chroniqueur... des sports en général, parce que extraordinaire.
C'est lui qui disait, le chroniqueur du Tour devient la proie de la métaphore.
Oui, c'est ça, voilà.
Et aussi de la référence historique, parce que si vous passez à Golfe-Juan, qu'est-ce que vous dites?
Ah, je ne sais pas. Là,
l'empereur a débarqué pour les 100 jours.
Ah oui, d'accord. Oui. Ah, bah,
donc
oui,
vous
oui.
dites que le Louis XVIII n'a plus le maillot jaune. Enfin, on est dans une émission d'histoire.
Oui, c'est vrai.
Et si vous êtes à Vincennes, par exemple, bah, vous dites que le duc d'Enghien y a été fusillé, et puis...
Mais d'ailleurs, il faut dire aussi que les organisateurs du Tour aident beaucoup les chroniqueurs. C'est-à-dire qu'il y avait un historien, d'ailleurs, dans la Société du Tour, qui n'est plus là aujourd'hui, qui s'appelait M. Vermelinger, si j'ai bonne mémoire, et qui ficelait des dossiers. Je veux dire, il mâchait vraiment le travail des chroniqueurs, parce que les parcours allaient systématiquement dans des lieux où il s'était passé quelque chose d'historique et que la mémoire avait plus ou moins conservé. Donc, il donnait des biscuits à tous les suiveurs.
Alors, on vous donne des biscuits à vos autres suiveurs. On vous donne aussi des badges et des macarons. Voici la voix d'Antoine Blondin.
Le tour pour un journaliste, ça consiste d'abord à aller retirer un macaron de suiveur. Ce macaron de suiveur, on se l'attache à la hauteur de la ceinture. Ce qui fait qu'on se trouve d'abord dans une civilisation où tout le monde se dévisage à la hauteur d'une nombril pour savoir à qui on a affaire. Et puis petit à petit, on remonte vers les visages. Et ces visages sont assortis de bouches qui vous disent « Ah, ce n'est plus du tout ce que c'était autrefois ». Et je dois avouer qu'après 15 tours de France, je suis assez de cet avis-là.
Autrefois, nous étions 1600 compagnons du Tour de France qui débarquions dans une ville. Nous animions la ville, nous étions heureux. Maintenant, la configuration du parcours fait que la nuit se disperse. Or, une nuit qui s'éparpille n'est pas une nuit. La nuit, c'est une concentration. La nuit, c'est comme du café noir. Ça excite et ça chauffe. Mais je puis vous dire une chose. C'est que dans les deux ou trois premiers Tours de France que j'ai eu le privilège de suivre, eh bien, je n'ai pas vu mon hôtel une seule fois pendant 24 jours.
À force de boire l'encrier, vous voyez, il change même de voie. Mais si, oui, les chambres d'hôtel de Blondin témoignaient de sa présence avec des cendriers bourrés de mégots, des corbeilles à papier
rempli brouillon. Oui, mais en même temps, vous savez, il faisait partie de la cohorte directionnelle du Tour. C'est-à-dire que le brillant équipage numéro 1, il avait la voiture numéro 1, la voiture rouge, avec Pierre Chagny, Antoine Blondin. Ils étaient à la table du patron du Tour tous les soirs. D'ailleurs, je me souviens d'une réplique fameuse d'Antoine. Une année, il y avait de la pintade tous les soirs à table. Et au bout du cinquième ou sixième jour, Antoine s'est levé et s'adressant comme ça de manière un peu protocolaire à Jacques Godet, parce que ce qui était vraiment le pape de cette affaire, Monsieur Godet, avec son hésitation, son élocution un peu hésitante, il lui dit « Monsieur Godet, si ce volatile doit nous suivre jusqu'à Paris, qu'on lui mette un dossard. »
Blondin évoquait Anquetil comme le champion gothique, toujours la métaphore, Polydore comme le champion roman. Vous auriez un portrait à refaire de vos héros?
Aujourd'hui, ce serait difficile. Non, mais un champion d'aujourd'hui?
De votre époque.
Ah, de mon époque.
Jusqu'aux années 80.
Qu'est-ce que j'ai connu quand même? Moi, j'ai connu Bernard Hinault.
BHV, Bernard Hinault vainqueur.
Oui, Laurent Fignon, je me souviens très bien de leur victoire. J'étais sur ces tours-là et je... vraiment, c'était des champions qui avaient du caractère. Ça, j'aimais beaucoup.
C'est-à-dire, c'était des figures qui avaient de l'arrière-pays, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis une personnalité très forte. Impossible de s'imposer dans cette épreuve si on n'a pas, justement, une certaine, je dirais, rugosité ou même rusticité. Mais ça a disparu. Alberto Contador ne dit plus rien, ne dit rien à personne. Qui est Alberto Contador, vous savez, vous?
Mais est-ce que ce n'est pas avec l'époque souveraine de Merckx qu'a commencé ce formatage des champions, Merckxissimo?
Non, je pense que ce formatage est certainement lié à la lutte antidopage, qui est une invention récente. Vous savez comment on appelait le dopage avant que le mot arrive? On appelait ça les soins.
La bouteille merveilleuse.
Les soins. Non, les soins. Les soins, c'était médical.
La piqûre magique.
On disait de tel coureur, il a beaucoup de classe, mais il est un peu léger sur les soins. Vous voyez, il y a eu une bascule là énorme. Et donc, les champions, la difficulté est la suivante, c'est qu'on cherche aujourd'hui Anguille Souroche et que donc les champions ont appris. Plutôt ont désappris à parler et donc ont appris à se taire. C'est en général très lié, vous voyez. Et donc, on a des profils en plus avec, pour des raisons de sécurité, l'obligation du port du casque et les lunettes de soleil foncé, si bien qu'on ne les reconnaît plus vraiment.
On ne va pas en dire davantage là-dessus.
On est dans une sorte d'anonymat, si vous voulez, ça collectif.
Ça fâcherait Jean-Paul Rouchon, si on épiloguait sur ce sujet, il n'aimait pas trop qu'on l'aborde. Et alors cette émission lui est dédiée. On va l'écouter, si vous le voulez bien. On va se projeter dans l'avenir, on ne va pas rester dans la déploration après sa mort. C'est l'arrivée du Tour. Cette année 2011, sans lui, ce sera le 24 au Champ. À l'époque, c'était à un autre endroit. Alors attention, les Kazakhs arrivent à Paris, pas exactement à Paris, à Vincennes.
Ça y est, c'est la clameur, on commence à s'agiter, c'est la clameur qui va déboucher en tête au Vélodrome ici à Vincennes. C'est Willy Terlinck qui va peut-être l'emporter. Non, car il y a Walter Gottfried là-bas qui est en train de faire l'effort pour tenter de revenir. Mais il me semble que cet effort sera bien trop prématuré, qu'il n'y arrivera pas. Walter Gottfried n'a pas démarré au moment où il fallait. Si, peut-être va-t-il pouvoir revenir. Non, car il y a Marino Basso dans un sprint, Van Linden également. Mais Willy Terlinck va, semble-t-il, gagner. Oui, Victoire de Willy Terlingue. Premier Terlingue, deuxième basso, troisième Volinden, quatrième Walter Gottfroth, cinquième Gerben Karsten. Inutile de vous dire que Marino Basso est particulièrement déçu. Il a eu un geste très particulier lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée ici. Et nous enregistrons donc ici la victoire, la troisième victoire de Willy Terlingue, alors qu'Eddy Merckx, les deux bras en haut, les deux bras en l'air, a lâché son guidon et se fait applaudir par les Belges.
En 72, Merckx encore, Poulidor troisième.
Oui, toujours.
Jean-Paul Brouchon.
Jean-Paul Brouchon, oui, je me souviens de sa grande silhouette de breton sur le Tansat de la moto. C'est cette image-là que j'ai. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, à l'endroit où il coulait des jours paisibles. Il était à la retraite, donc à Loubressac. Parce que justement, tiens, vous me parliez de mes parcours cyclistes. J'avais un parcours qui me faisait monter la côte de Loubressac, dans le Quercy. Et un jour, j'ai appris que Jean-Paul habitait là. J'ai dit, ah bon ? Et je l'ai croisé, en effet, chez le marchand de journaux, un beau matin.
L'addiction. Je n'ai pas dit le dopage, l'addiction aux journaux.
L'addiction.
Jean-Marie Leblanc disait, allez, une question qui fâche, il n'est plus là. Nous menace au Tour de France le dopage, on en a déjà parlé. Le gigantisme, l'argent, et puis aussi les ronds-points.
Ah, les ronds-points, c'est terrible. Oui, les ronds-points, c'est la mort du Tour. C'est absolument terrible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un conflit économique entre l'obligation du Tour de France, à cause de son gigantisme, de s'adresser à des grandes villes. Et vous avez vu comment on entre dans les grandes villes maintenant. Donc, le rond-point, c'est une très grande difficulté actuellement. Franchement, il n'y a pas que les ronds-points, il y a les îlots directionnels, il y a aussi les ralentisseurs. Donc, les municipalités sont priées, autant que faire se peut, de déposer les ralentisseurs. C'est quand même extraordinaire parce que le Tour de France garde cette puissance étonnante d'avoir la faculté, sinon d'abolir les ronds-points, du moins de faire déposer les ralentisseurs et parfois même les îlots directionnels.
De faire reculer les normes.
Oui.
On en est à la 98e édition. C'est une course de vitesse entre la norme, la régulation et le plaisir. On va quand même arriver à la centième. Il y a quelques années, on n'était pas sûr qu'il y aurait une centième édition. Quant à la 150e, rien de prévisible. Merci à vous, Jean-Louis Hésine.
Il a le maillot, il a le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo et chante sur l'air des lampions pour son champion. Vite à la maison pour voir son triomphe à la télévision.
Ça y est, c'est les vacances. Youhou !
Dans les semaines qui viennent, rien ne va vous intéresser. Si, peut-être New York, Jean-Louis Hésine, mais pas le mariage de Monaco, ni la chute de Hulot au col des Verts. Ça ne va pas vous intéresser. Vous n'allez vous passionner que pour le Tour.
Déjà, l'arrivée à Lisieux, c'est jeudi, non ? Le 7, c'est quand là.
C'est votre ville. D'ailleurs, je vous informe que...
La dernière fois, c'est Edouard Sells qui avait gagné.
Nous allons recycler pendant cet été, puisque ce sont les vacances pour nous jusqu'au 21 août, un certain nombre d'émissions déjà diffusé, et notamment votre Arsène Lupin à Lisieux et en Normandie. Donc recyclage et rediffusion pour l'équipe de la Marche de l'Histoire qui s'enferme dans la contemplation du Tour et qui ne reviendra qu'après la saison des critériums. J'ai nommé Clarisse Le Gardien, Franck Olivard, Frédéric Martin, Camille Poux, Jalaguier, que je remercie de leur rôle chaleureux et fervent, équipier à la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard, Yann Bouillot.